We're going to be looking at what chapter 2 tells us.
Donc pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois aujourd'hui, on est en train de faire une série en titre et de regarder quel est le plan de Dieu pour son Église. Et on va regarder aujourd'hui ce que dit le chapitre 2 de ce livre.
But before we do so, we'll just pray.
Et on va d'abord prier.
Our Heavenly Father, we recognize that the Bible is your word.
Père Céleste, nous reconnaissons que la Bible est ta parole.
We know how important it is for us to come to know you and come to know the gospel, particularly the gospel of grace.
Nous savons à quel point c'est important de parvenir à te connaître et à connaître l'évangile de la grâce.
And we also know that we need your help if we are to learn from it and to grow from reading it.
Et nous savons aussi que nous avons besoin de venir et d'apprendre et de grandir dans cet évangile.
So help us, we pray, by your Holy Spirit, as we think through what the message from Titus 2 has to teach us today in Bordeaux.
Alors aide-nous à travers ton Saint-Esprit pour comprendre ce que le message de Tite veut dire pour nous à Bordeaux.
In Christ's name we pray.
Au nom de Jésus.
Amen. Amen. All right. Did you guys catch how this chapter started and ended? Did you guys catch that?
Est-ce que vous avez remarqué la façon dont ce passage a commencé et a terminé?
What does Paul tell Titus to do? In the first verse and in the last verse.
Qu'est-ce que Paul demande à Tite de faire dans le premier et dans le dernier verset?
This is an actual question. You're allowed to respond. Yeah.
Teach.
There it is. Michael's got it. Teach. Look at it. Verse 1. You, however, must teach. And then verse 15. These, then, are the things you should teach.
Paul encourage Tite à enseigner... C'est pas tout à fait les mêmes mots en français, mais enseignant. On va au verset 1. Quant à toi, dis ce qui correspond à la saine doctrine. Et au dernier verset, dis ces choses. Encourage et reprends.
Well, what it says in French is actually speak. Speak these things. And that's actually what that word means. He's supposed to speak them, to teach them. Right? The context helps us know that he's not speaking for the fun and games of it all, but to teach.
D'après le contexte, on voit bien que ce mot « dit ces choses », ça veut dire « enseigne ces choses ».
Last 2 weeks, we talked a lot about the character of teachers, didn't we? We saw that Titus had to find men who were able teachers, who were good teachers. And what made them good teachers wasn't their skill, but their character. And then we saw that Paul warned the church in Crete and Titus against unhelpful and false teachers. And you knew they were unhelpful and false by the way they lived their life. You knew it by their character. So we learned about the character of teachers.
Donc les deux semaines passées, on a beaucoup appris et lu au sujet du caractère que doivent avoir ceux qui enseignent la parole. Dans la première semaine, on a vu le caractère de ces enseignants et le fait que ce qui les qualifie, c'est leur caractère plus que leurs compétences. Et ensuite, la semaine d'après, on a vu la façon dont Paul met en garde contre ceux qui sont de faux enseignants et ça se voit dans leur façon d'être.
Now, what we'll do in these next 2 weeks is look at the teachings themselves. And these teachings are referred to in our Bibles by the word doctrine. So we're going to look at the teachers, now we're going to be looking at the teachings, the doctrine.
Donc après avoir parlé de qui devaient être les enseignants, dans les 2 semaines qui viennent, on va parler de ce qu'ils enseignent et du contenu de la doctrine qu'ils enseignent.
And thankfully, this week, the text, the Bible, gives us a quite an easiest structure to work with.
Et aujourd'hui, le texte qu'on a une structure assez simple.
We've got 2 parts, don't worry. In verses 1 to 2, Paul tells us what is appropriate to sound teaching or sound doctrine. And essentially, this is the practical result of sound doctrine.
Donc dans les versets 1 et 2, on voit ce que Paul dit, ce qui est approprié, ce qui correspond à la saine doctrine, puis qui en découle.
And then, in verses 11 to 15, he gives us the doctrine itself, the doctrine from which everything that else, that's a, from which right living should flow from.
Donc ça c'était verset 1 à 12, et ensuite verset 13 à la fin, on a le, la façon dont ça se manifeste dans la vie, le fait de, la façon dont, les conséquences de la bonne doctrine dans la vie.
Well, no, that's verses 1 to, let me rephrase this then. Verses 11 to 15, we've got the sound doctrine itself. And then verses 1 to 10, we have the practical implications of the sound. How does that look in our lives? If you believe verse 11 to 15, or 14 really, verses 1 to 10 should work themselves out in our lives.
Ok, je me reprends. Verset 11 à la fin du chapitre, c'est la doctrine dans laquelle on croit. Et la première partie du chapitre, c'est les conséquences de cette doctrine dans notre vie.
And the reason he does it this way is because for Paul, there is an undeniable link between what you know, what you believe, and what you do. Alan referred to this last week by three simple words: head, heart, hands. What you believe changes what you want, and what you want works out through what you do.
Et la raison pour laquelle ce passage suit cette structure, c'est parce que pour Paul, il y a un lien indissociable entre ce qu'on croit et ce qu'on fait. La semaine dernière, Alan a résumé ça en parlant de la tête, du cœur et des mains. Ce qu'on croit change ce qu'on aime et change ce qu'on fait.
And so if you're going to remember one thing tonight, it's this. Now it's dangerous for me to give you the one thing you're supposed to remember tonight, because it means you can sort of switch off your brain. But it doesn't matter. It means you can switch off your brains. But if you're going to remember one thing tonight, it's this. Sound doctrine, and that word sound that we get in verse 1, is actually the same word that you could use to say healthy, right? That's why it says healthy in the French version. But sound or healthy doctrine leads to sound or healthy lives.
Et donc, s'il y a une chose dont on doit se rappeler avec ce message, c'est que la saine doctrine amène à une conduite sainte.
C'est pas... All right. So, we'll start with the first section, which I've called Sound Living, God's Dream or Vision for Christians in the Home. And that's verses 1 to 10.
Donc on va regarder à la première partie, les versets 1 à 10, qui parlent de une façon sainte de vivre.
And you could also say saint. Saint is saint. Pretty. In French, the word for holy and healthy sounds so similar. All right. There are a couple of quick points I want to make from this passage. We aren't unfortunately going to take the time to go verse by verse because we'll be here for quite a long time. And so I've sort of gathered up together a summary, I think, or I feel, of helpful things you can learn from this picture that Paul paints. And first, when you read these verses, verses 1 to 10, you might be thinking, wait a second, last week Alan told us quite clearly and actually quite boldly that God doesn't use a list of rules or rituals to take rotten people and make them into holy people. But is it what we have in verses 1 to 10, a list of rules?
Quand on regarde la première partie de ce passage, peut-être on se dit, mais la semaine dernière, on a dit que Dieu n'utilise pas une liste de règles pour transformer des gens qui sont pourris à l'intérieur en des gens saints. Et pourtant, en regardant ce passage, on peut se dire, ça ressemble quand même à une liste de choses à faire et pas faire.
What is Paul doing here?
Mais qu'est-ce qu'il est en train de faire Paul ici?
See, Paul said, usually what Paul does when he writes his letter is he starts with the sound doctrine in the first half of the letter, then the second half of the letter, and any letter you read from Paul, he'll describe the sound living that flows from the sound doctrine. But this time he's switched up. Here, he's given us the sound living first, before giving us the sound doctrine afterwards.
Quand on lit les lettres de Paul, on remarque que souvent la première moitié est dédiée à la doctrine, à la saine doctrine, et la deuxième moitié décrit les conséquences sur notre façon de vivre, les conséquences de cette saine doctrine sur notre façon de vivre. Et on voit qu'ici, en fait, Paul fait l'inverse.
And so I'm going to use an image that I hope will help us see what is going on in this section. And when I mean I use an image, I'm going to use a literal image. I'm going to ask Farm to put it up there.
Donc on va utiliser une image qui, on espère, va nous aider à comprendre ce que Paul est en train de faire.
Do any of you know what this is?
Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est ça?
Collage.
A collage, all right, yeah, very good. A collage of what? Of pictures and words? Has any of you seen anything like this before? All right, what is it? Anyone want to put a name to it?
Vision board.
You've got it. Are you from America by any chance? That's why. That's what it is. Good. Excellent. Excellent. It's a vision board. See, I grew up with an amazing father, and he was a very interesting father as well, because he was very big into personal motivation, personal growth, and self-motivation. As kids, one thing that he would get us to do is to create something called a vision board. Now, this is not my vision board. I do have one that I created as a teenager, but I was much too embarrassed to show you guys what it was. So I took one off the internet.
To show.
Oh, I can't. It's at home, thankfully. So I took one off the internet.
Donc ça, c'est ce qu'on appelle un vision board, donc une sorte de tableau qui représente notre vision pour le futur.
Well, I haven't yet explained what it is, but very good.
Et donc le père de Sylvain, qui les a élevés aux États-Unis, même sans être américain, il a un peu ce désir, il les a élevés avec ce désir de réfléchir au futur et de le développement personnel et des choses comme ça, et il les a encouragés à faire leur propre tableau de vision.
Yeah, so those of you who enjoy things like personal growth and self-motivation probably have done maybe something like this. Now, the idea of a vision board is to take a collage of pictures and potentially words that represent your goals in life.
Et donc le but avec ça, si vous l'avez peut-être déjà fait ou pas, mais c'est de faire un collage avec des images qui représentent un peu nos objectifs dans la vie.
For example, if you want to travel a lot, well then you put pictures of famous places. I think that's like a plane seat. This is Paris, a suitcase. Pictures of traveling. If you like, a nice home, you put a picture of a nice home. If you want to be rich, you put a picture of money on there. It's that sort of thing.
Donc, par exemple, on voit pour une personne qui aime voyager, une valise, les endroits où ils veulent aller, ou pour quelqu'un qui veut une grande maison, voilà, des images qui peuvent représenter sa maison, etc. Sa future maison.
The whole point of doing all of this is that upon seeing this vision board, you gain motivation and inspiration to live for those dreams and goals and aspirations.
Et le but d'avoir fait un outil comme ça, c'est qu'en regardant l'image, on obtient la motivation pour aller vers ce but-là. Mm-hmm.
My point is this. What do I want to make from this image? I think that in verses 1 to 10, we have something similar to God's vision board for the church community in the home.
Pourquoi on parle de ça? Parce que dans les versets 1 à 10, on a une sorte de vision board aussi de ce que Dieu a prévu pour son peuple.
We have a vision board, we have a picture of what God seeks to achieve in the church and in the people of the church, meaning you and me.
On a une image de ce que Dieu veut accomplir dans l'Église et dans le peuple qui constitue l'Église, dans vous et dans nous.
If you've ever wondered what God's will is for you, in a very practical way, you have it right here in these verses.
Et si vous vous êtes déjà demandé comment ce que c'est la volonté de Dieu pour vous d'une façon très pratique, très concrète, c'est écrit ici.
So, what kind of pictures or words would we put on and do not? We're not going to be putting up pictures or words on the board. We could have, but that would be a lot of work. But how would we summarize some of these words or pictures you'd see on God's vision board for us?
Alors, à partir de ce passage, quels sont les mots et les images qu'on pourrait mettre pour résumer ce tableau de vision de Dieu pour nous?
When we read these verses, were there any words that struck you as coming up often?
Est-ce que déjà en lisant ces versets, il y a des mots qui vous ont marqué parce qu'ils revenaient souvent?
I can think of one that was repeated, I think like 3 times in verses 1 to 10, and then a fourth time in verses 11 to 15.
Il y a au moins un mot qui est répété 3 fois des versets 1 à 10 et au moins une quatrième fois dans la deuxième partie.
Although I'm not sure what it says in the French version. Alright, good. That appeared somewhere in verse 3. Teach what is good.
Self-control.
Oh, but Michael is on the dot today. Self-control. Self-control. We see it in verse 2, verse 5, and verse 6. Right? In fact, it seems to pop up in every category. Older men are to be temperate, self-controlled, worthy of respect, self-controlled. Younger women are called to be self-controlled. Young men, he tells young men to do one thing, and it's what? Be self-controlled, right? Similarly, verse 6 encourages the young men to be self-controlled.
Donc en français, on a le mot réfléchi qui est utilisé, et c'est aussi une idée de maîtrise de soi. Et on voit qu'à chaque catégorie de personnes, Paul dit qu'ils doivent être réfléchis. On voit ça au verset 2, on voit ça au verset 5 et au verset 6.
What does it mean to be self-controlled? Well, actually, the French version gives us a helpful hint at part of the meaning of self-control. It says, thoughtful, right? French, réfléchi, thoughtful. Self-controlled, being self-controlled means being the master of your thoughts and your actions. Here's a helpful picture to see what it means. And if you've ever worked with kids, you may have noticed something quite similar happen. Let's take two kids. One is named, trying to think of a neutral name, James. James. And the other is named Sally. Sally and James.
Donc, qu'est-ce que ça veut dire d'être réfléchi? Ça veut dire d'être au contrôle de ses pensées et de ses actions. Et si on prend une image avec des enfants, deux enfants qui s'appellent James et Sally. Et si vous avez déjà travaillé avec des enfants, peut-être ça va vous parler.
Yeah. This, if you've worked with kids or if you have kids, this scene may have happened to you before. Sally comes up to you, crying in tears, and you ask Sally, "Sally, what's wrong? What happened?"
Sally vient à toi en pleurant, et tu lui dis mais qu'est-ce qui s'est passé, Sally?
And you could probably guess what happened. She says, "James hit me. He hit me." And it hurt, and I'm crying.
Et tu peux peut-être même deviner ce qui s'est passé. Elle dit, mais il m'a tapé, et ça m'a fait mal, et elle pleure.
So, you keep your calm and composure, and you go talk to James. Say, James, why'd you hit Sally?
Donc tu restes calme, et tu vas parler à James, et tu dis, James, pourquoi t'as tapé Sally?
And what would James say? I didn't do it on purpose.
Et ce que James va répondre, c'est, mais j'ai pas fait exprès.
In other words, I couldn't control myself. She said something that made me angry, and so I hurt her, but I didn't want to hurt her, so I didn't do it on purpose. I didn't do it on purpose. I couldn't control my thoughts or my actions.
Et ce qu'il veut dire par là, souvent, c'est qu'il ne s'est pas contrôlé. Elle a dit quelque chose, ça m'a énervée, je l'ai tapée, je ne voulais pas lui faire mal, mais voilà, c'est ce qui s'est passé. Je ne pouvais pas contrôler mes pensées ni mes actions.
And so what you should respond in that sense is, well, you need to purposefully not hit Sally. You need to be self-controlled.
Et là, ce qu'on peut répondre, c'est que il faut que tu sois, que volontairement tu ne la tapes pas, donc que tu contrôles ce que tu fais.
It is easy for us to think that self-control is impossible.
Et on a facilement tendance à penser que le contrôle, la maîtrise de soi, est impossible à atteindre.
You kind of think, yeah, but I'm just doing what everyone else is doing. I'm controlled by society. I just can't master my thoughts or my actions.
Et peut-être vous dites, oui, mais je fais juste ce que fait tout le monde. Je fais comme le reste de la société. Je suis un peu même influencée par la société et je ne contrôle pas forcément ce que je dis ou ce que je pense.
But for the Christian, this is no longer true.
Mais si on est chrétien, alors ça, ce n'est plus vrai pour nous.
We'll look later on in verses 11 to 14 why this is, but it's no longer true. Something has happened for the Christian for them to be able to be self-controlled.
Et on va voir un petit peu plus loin dans le passage pourquoi et qu'est-ce qui fait que ce n'est plus vrai pour nous et que maintenant on doit et on peut être maître de nous-mêmes.
But it means that we can't use lack of self-control as an excuse for sin anymore.
Mais ce que ça veut dire aussi, c'est qu'on ne peut pas utiliser l'excuse, on ne peut pas utiliser un manque de maîtrise de soi comme excuse.
You've probably seen it happen before, either in someone else, but more often than not, probably in your own life. You curse, right? And you kind of think, oh, well, I'm too passionate. I'm so passionate, and that just slipped out because of my passionate speaking. But it's okay, you know, that's obviously not super wrong. I was just being passionate. Cursing is okay. But for the Christian, that is no longer an excuse. We are called to exercise self-control.
Et vous avez peut-être vu ça dans les gens autour de vous, ou même vous l'avez utilisé vous-même comme excuse de dire j'ai parlé de façon grossière, mais c'est plus fort que moi, c'est sorti tout seul, mais ça c'est plus une excuse une fois qu'on est chrétien.
All right. What other word might we put on the vision board?
Quel autre mot est-ce qu'on pourrait mettre sur ce tableau de vision?
I want to propose one, even though it's not in the verses. There are many words in the verses we could put. But I want to propose one, even though it's not in the verses, because I think it summarizes an important point the verses are trying to make. And it's this, respectability.
Il y a un mot qu'on pourrait proposer, même s'il n'est pas en tant que tel dans le passage, mais il résume quand même plusieurs idées de ce passage, c'est le fait d'être respectable, la respectabilité.
What do I mean by respectability?
Qu'est-ce qu'on veut dire par là?
Well, by being respectable, I mean, living a life in such a way that people can respect and appreciate what you do and what you say.
Donc, être respectable, c'est vivre d'une façon qui fait que ce qu'on fait et ce qu'on dit peut être respecté des autres.
Now, this is different from being a people pleaser. It might sometimes look like you're being a people pleaser, but it's different from just trying to please people. It's living in a right way.
Et ça ne veut pas dire qu'on est tout le temps en train d'agir d'une façon où on essaie de plaire aux autres, mais ça veut dire qu'on agit d'une façon qui est droite.
We see this in verses 5, 7, and 10.
On voit ça versets 5, 7 et 10.
In those three verses, there is a clause that starts by so that. And I don't know what it is in French. I think it might be something like ainsi. Ou afin, so that.
Donc on voit dans ces versets-là le mot afin que qui revient plusieurs fois.
We see in verse 5, live in such a way so that no one will malign the word of God. No one will speak bad about the word of God. And this is said to the young woman. You know, young woman, live in a way so that no one will malign the word of God. Verse 7. Is it verse 7? Verse 8. Yes, verse 8. He's telling Titus to live as a good model so that those who oppose him may be ashamed because they have nothing bad to say about us. And then in verse 10, we see this to the slaves where he tells them to live in a respectable way. Not stealing from their masters, but showing that they can be trusted so that they will make the teaching about God our Savior attractive.
Donc on voit au verset 5 que Paul s'adresse aux jeunes femmes et dit qu'elles doivent se comporter d'une bonne façon afin que la parole de Dieu ne soit pas calomniée. Au verset 8, il parle aux jeunes gens, aux jeunes hommes, et leur dit quelque chose de similaire, de bien se comporter d'une façon respectable afin que nos opposants soient couverts de honte, n'ayant aucun mal à dire de nous. Et enfin au verset 10, les esclaves sont encouragés à se comporter d'une façon droite afin d'honorer pleinement la doctrine de Dieu notre Sauveur.
And though these things are spoken to specific groups of people, they're true for all the groups of people, aren't they? We are to live in a way that leaves us free from accusations.
Et donc ça, c'est des choses qui sont dites à des groupes de personnes en particulier, mais elles sont vraies pour tout type de personnes. Il faut qu'on vive d'une façon qui soit au-dessus de toute accusation.
But also to live in a way that makes our message, the gospel, attractive to people. That they see and be like, yes, you know, that makes sense.
On doit aussi vivre d'une façon qui rende l'évangile attirant pour les autres.
See, the way you act has an impact on how people view the message you share.
Parce que la façon dont on se comporte impacte la façon dont les gens vont voir le message qu'on partage.
And we see it with people and we expect it from all of our leaders, don't we? You know, we tell people to be coherent. Be coherent with what you say. Practice what you preach.
Et on voit ça autour de nous et on le voit en particulier avec nos leaders à qui on demande d'être cohérent et de pratiquer ce qu'ils prêchent.
This is true for your leaders, but it's also true for you, right? Even if you're not necessarily a leader in the church or in society, you need to practice the gospel message that you share with your friends.
Et ça, c'est effectivement vrai pour vos leaders dans l'église et dans la société, mais c'est vrai pour vous également. Vous devez aussi pratiquer l'évangile que vous partagez à d'autres.
See, because there's a temptation to compartmentalize, isn't there?
Parce que c'est une tentation pour nous de compartimentaliser et séparer les choses.
What I mean is, we live in a respectable way when we're with respectable people. You know, when we're at church or with our church friends, we live respectfully. But when we're with our other friends, we just live like they do, right? We live in a different way, maybe. Well, the Bible challenges us to not do that, to live in a way that's respectable to the gospel at all times. That way, when you share the gospel message, people will listen to you.
Et ça peut être tentant pour nous de nous comporter d'une façon qui est respectable quand on est entouré de gens qui se comportent aussi de cette façon-là et qui sont aussi respectables, par exemple dans l'église, mais par contre de se comporter complètement différemment une fois qu'on est en dehors de ce cercle-là, en dehors de l'église. Et la Bible nous met au défi d'être cohérent, quel que soit le cercle avec lequel on est, et de se comporter de façon respectable dans tous les cas.
And one final word that I'll mention on that is important to capture and summarize the way we should live in the church community and home, and it's being a good model.
Et enfin, un troisième terme qui peut résumer cette façon de se comporter d'après le passage, c'est d'être un bon modèle.
In fact, every category of people serve as a model for someone. Older men, they are essentially models for younger men and for everyone in general. They're a model in the way that we live, sound in faith, in love, and in endurance. So we follow them in that way. Older women are to be reverent in how they live. Why? Because they're models for the younger women, right? Slaves, in a way, model the importance of the gospel message to their masters.
Et quelle que soit la catégorie de personne à laquelle on appartient dans cette liste, on est toujours un modèle pour quelqu'un d'autre. Qu'on soit une femme plus âgée, on est un modèle pour quelqu'un de plus jeune. Les esclaves sont des modèles pour leur maître. C'est valable entre toutes les catégories.
Right? And now, this passage doesn't encourage slavery, right? But it does speak to how we should act when we are in a relationship of authority. That means we have someone who's in authority over us, which happens quite often at work, doesn't it? We've got bosses.
Et ce passage n'encourage pas l'esclavage, mais il nous montre comment on peut se comporter sous l'autorité. Et on est tous, à un moment donné ou à un autre, sous l'autorité, par exemple, de notre patron au travail.
And in a similar way, kids as well, they have authority structures over them, their parents that they should listen to and obey.
Et même chose, les enfants ont aussi une autorité au-dessus d'eux dans la personne de leurs parents auquel ils doivent obéir.
I have noticed, I'm a playground monitor if you haven't realized, so I work with kids. And I noticed that younger kids copy the behavior of older kids.
Donc Sylvain, il travaille comme surveillant dans une cour de récréation et il dit qu'il remarque que les jeunes enfants copient le modèle des plus grands.
For good and for bad.
En bien comme en mal.
And so, what I do in the playground is I encourage the older kids to realize this so that they change what they do. Sometimes they'll do something that is a bit dangerous. It's not bad, there's nothing bad about it, but it's just a bit dangerous. So I say, hey, look, you probably don't want to do that. Because what if a younger kid does it and gets hurt?
Et donc ce qu'il essaie de faire, c'est d'encourager les grands à se comporter d'une façon qui va pas être mauvaise pour les plus jeunes. Par exemple, s'ils font quelque chose d'un peu dangereux, on peut leur dire attention, parce que si un plus jeune fait comme toi, ça pourrait devenir un problème.
And most of the time, they rail against it. They say, oh, that's not fair. I don't want to be responsible for anyone. But then they realize that it's just the case. And so they do change their behavior because of it.
Et la plupart du temps, ils râlent, ils sont pas contents, ils disent mais je veux pas être responsable pour quelqu'un d'autre. Mais ensuite, souvent, ils se rendent compte que c'est juste, c'est vrai, qu'ils le veuillent ou non, c'est vrai.
And the church family, we want to do likewise. We want to live in such a way that if someone copied your way of living, your behavior, they wouldn't be led into harmful ways of life or into sin.
Et on veut faire la même chose au sein de la famille de l'Église. Si on veut vivre d'une façon qui, si quelqu'un nous copie, ce ne soit pas mauvais pour eux.
Right. So here we have a picture of self-controlled, respectable human beings, it's very impersonal, people who are modeling helpful behavior for one another.
Donc on a ici cette image de personnes qui sont réfléchies, qui sont respectables et qui sont des modèles les uns pour les autres.
That's the sound way of living.
Et c'est ça la façon sainte d'agir, de se comporter.
Well, now let's take a look at the second part of the sermon, which won't be as long as the first part, the sound teaching.
Et donc maintenant, on va regarder la partie suivante qui nous parle de la saine doctrine.
I'm going to try to summarize everything that I have in my notes here. In a vision board, you also have a vision statement. All right.
Quand on fait un tableau de vision, on a aussi une déclaration de vision.
A vision statement. This is a statement which describes as simply as you can your priorities in life, what you want to do in life.
Et c'est une phrase qui résume de façon succincte les priorités et les buts de notre vie.
Well, not what you want to do, but what you want to, the principles you want to follow.
Ou les principes qu'on veut suivre.
See, this is where the vision board image no longer works for us, right? Because we don't have a vision statement about what we want to follow.
Et donc ici, on voit que l'image du tableau de vision arrive à sa limite, parce qu'on n'a pas vraiment, nous aussi, une phrase qui résume les principes qu'on veut suivre.
But Paul is going to teach us in verse 11 and 14 isn't about stuff we do, but it's about things that has happened to us, things done for us.
Mais à partir du verset 11, on voit que Paul décrit des choses pas qui résument ce qu'on veut faire, mais qui résument des choses qui ont été faites pour nous.
We have not a vision statement, but we have the truth about new life in Jesus Christ.
Et donc pour nous, c'est pas ce qui est important, c'est pas d'avoir cette déclaration de ce qu'est notre vision, mais c'est de connaître la vérité sur ce qu'est notre vie en Christ.
Look at what he says in verse 11. For the grace of God has appeared that offers salvation to all people.
On voit au verset 11, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été révélée.
You see, the only way that Paul can encourage people to live right, to be self-controlled, to be respectable, to be good models, to love one another, to show integrity and seriousness, all the things that we can read about in verses 1 to 10, isn't because he is very confident in their abilities.
Et donc, parce que ce qu'on voit que Paul décrit dans la première partie, le fait qu'il veuille que, encourager les chrétiens à être réfléchis, à être respectables, à être des modèles et à être persévérants, etc., toutes ces choses-là, il ne leur demande pas parce qu'il pense que c'est des super chrétiens.
He does it because he's confident in the grace that has appeared and that offers salvation to all people.
Et la raison pour laquelle il leur demande ça, c'est parce qu'il a confiance dans la grâce de Dieu qui a été révélée et qui est bonne pour le salut de tous les hommes.
It is because of his confidence in that grace that he can believe or be sure that people can do good afterwards.
Et c'est parce qu'il a confiance dans cette grâce qu'il peut avoir confiance dans le fait que ces chrétiens vont bien se comporter.
So what is this grace?
Donc qu'est-ce que c'est que cette grâce?
Is it this impersonal principle that powers people?
Est-ce que c'est un principe impersonnel qui nous motive?
Well, he explains a bit more what it is in verse 14.
Il explique ce que c'est en fait au verset 14.
When Paul says, "For the grace of God that has appeared, that offers salvation for all people," he's saying that Jesus Christ appeared, and he has given himself up for you to redeem you from all wickedness and to purify for himself a people that are his own, eager to do what is good. That is the message of the gospel, the message of grace. Christ has come and he has saved you. You haven't saved yourself, he has saved you.
Parce que ce que Paul veut dire quand il dit que la grâce de Dieu a été révélée, on voit un peu plus loin au verset 13 et 14 que ce qu'il veut vraiment dire, c'est que le Seigneur Jésus-Christ a été révélé, qu'il a été donné afin de nous racheter de toute faute et afin de nous purifier et de nous rendre zélés pour de belles œuvres.
So you see that grace is grace that saves you. It saves you. It's not your works that saves you. It's not good attitudes that save you. It's grace.
Et donc on voit Christ. Ici que c'est la grâce de Christ qui nous sauve et non pas ce qu'on fait et nos bons comportements.
Sometimes you will notice that I will use grace and Christ interchangeably. I'm doing that on purpose because I believe Paul is doing that here.
Et quelque part, en fait, on peut même utiliser grâce et Christ l'un à la place de l'autre, parce que c'est de cette façon que Paul les utilise dans ce passage.
It so characterizes what Christ has done for us, and it just makes sense to use it in that way. So grace has saved you. Second, grace teaches you. Grace teaches you. See, Christ hasn't saved you and just said, "Hey, look, you've saved, now kind of do whatever you want." Or, you know what, give it a second go. You know, try to live a good life on your own now. No, grace saves you, Christ saves you, and then he teaches you how to live. He teaches you how to live. We see this in verse 12 and 13. Grace teaches us to say no to ungodliness and worldly passions and to live life, to live self-controlled. There it is, that famous word. Self-controlled, upright, and godly lives in this present age.
Et donc la première chose, c'est que la grâce nous sauve. La deuxième chose, c'est que la grâce nous enseigne. Jésus ne nous a pas simplement sauvés pour ensuite nous dire maintenant débrouillez-vous. Il nous a sauvés et ensuite il nous enseigne à nous conduire d'une façon qui lui plaise. Et on voit ça au verset 12. La grâce nous enseigne à renoncer à un mode de vie impie et aux convoitises de ce monde et à vivre dans le temps présent conformément à la sagesse, la justice et la piété.
So it says no to ungodliness. That's another word for repentance. You turn from ungodliness, from sin, from anger, from envy, from jealousy, from lust, from conflict, from hate, from selfish ambition. You turn away from those things. You find no excuse to do any of it. And you turn to Christ, to self-controlled life, godly life, an upright life.
Et donc, on a cette idée de renoncer. C'est comme on parle de repentance, en fait. On se détourne des choses comme le conflit, comme l'égoïsme, toutes ces choses-là, tout le péché qu'on avait avant dans nos vies, on s'en détourne et on se tourne vers Christ à la place, qui nous encourage à vivre d'une façon sainte.
Here's an image of what Paul, I think, imagines has gone on in the life of the believers of Crete.
Et voilà, on peut parler d'une image qui va nous aider à comprendre ce que Paul voit qui s'est passé dans la vie des croyants.
See, essentially, the Cretans, so the people Paul is writing to, or the people Titus will be teaching, they had an excuse to live in a helpful way. See, they lived in a culture which wasn't really great. We saw that in chapter 1 last week. Paul says, Cretans are always liars, evil brutes, lazy gluttons. This saying is true. They lived in an unhelpful culture, and they sort of thought, it's natural for us to live as lazy brutes, liars, or lazy gluttons, evil brutes, and liars.
Donc les Crétois, donc, qui étaient les gens que Tite allait enseigner, ils avaient une excuse pour la façon dont ils se comportaient, parce qu'ils pouvaient dire, voilà, les Crétois, culturellement, ils sont toujours menteurs, de méchantes bêtes, des goinfres paresseux. C'est la façon dont ils sont décrits par un de leurs prophètes au chapitre 1.
But what's happened is that they have had a change in their... oh, I just lost the word. They've had a passport change. They've gotten a change in their culture.
Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est comme si on avait changé leur passeport, changé complètement leur culture.
They have a nationality change.
Ils ont changé de nationalité.
That was the word I was looking for earlier. They're no longer Cretans.
C'est
They're
comme
Christians.
Si ils n'étaient plus Crétois, mais maintenant ils sont chrétiens.
They're in Christ.
Ils
They no longer have an excuse to live as Cretans. They're supposed to live like people who look like Christ. Oh, they're supposed to live like Christ.
Donc ils n'ont plus d'excuses pour vivre comme les Crétois, ils doivent vivre comme Christ.
Right. And so, you don't live right to be accepted by God. You live right because you have been accepted by God. And he's changed your nationality, he's changed your culture, and so he's changing the way you're going to live.
Et donc on ne vit pas de façon droite pour gagner le salut, mais on vit de façon droite parce que Christ nous a déjà donné le salut.
Here's my image. It's the Rugby World Cup in France, right? If you go outside of town, if you walk around town, you'll notice different nationalities are represented, right? And you know that they are different nationalities. Why? Two reasons, really. First, they're probably wearing a jersey, you know? You know someone's Irish if they're wearing an Irish jersey. It's gonna be a green jersey. If they're wearing a green shirt, you can assume they're Irish.
Donc, l'image du changement de nationalité, on peut particulièrement la comprendre avec la Coupe du Monde de rugby. Et on marche dans Bordeaux et on voit partout des gens qui d'une nationalité différente. Première chose qu'on peut voir, première façon de le savoir, c'est parce qu'ils portent un t-shirt de leur pays.
Second, is that they're going to act differently than the French. Different nationalities act slightly differently. So you're going to be able to tell that they're not French by the way they act. And I won't go into any details there. Because that's dangerous territory.
Et la deuxième chose, c'est qu'ils vont se comporter d'une façon différente que de la façon dont se comportent les Français, parce qu'ils ne sont pas Français.
In a similar way, Christians should be identified by the way they live. Their new way of life is a jersey that declares their allegiance, their belonging to God, to his family. See, Jesus has bought you. He's purified you for himself to be his people. You're no longer your own. You belong to Christ. And you should reflect that in the way you live until he comes again in glory.
Et de la même façon, les chrétiens ne doivent plus se comporter comme ce qu'ils étaient avant de connaître Christ. Mais leur foi en Christ et leur nouveau comportement doivent être comme pour eux le t-shirt qui montre leur nouvelle nationalité et qui montre qu'ils ont été sauvés et transformés par Christ.
Let's pray.
Prions.
Our Heavenly Father, we thank you for the grace you pour out on us that has saved us, but that also teaches us to repent from sin and live in a way that honors you.
Père Céleste, nous te remercions pour la grâce que tu as déversée sur nous et qui nous confirme, qui nous montre qu'on est, qui nous permet d'être sauvés en Christ et de changer, d'être transformés.
We thank you that we are your people. Help us by your Spirit to live like it.
Nous te remercions parce que nous sommes ton peuple et nous prions que tu nous aides par ton esprit à nous comporter comme ton peuple.
Help us as we wrestle with living out self-controlled lives, respectable lives.
Aide-nous alors que nous luttons pour vivre des vies qui soient respectables et qui soient caractérisées par la maîtrise de soi.
Lord, we thank you that you have redeemed us and purified us.
Nous te remercions parce que tu nous as rachetés et tu nous as purifiés.
We thank you that you've forgiven our many sins.
Nous te remercions parce que tu as pardonné tous nos péchés.
We pray that you help us live we pray that you help us struggle against sin.
Et nous prions que tu nous aides à nous battre contre le péché.
In Christ's name, amen.
Au nom de Jésus, amen.